Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Pierre-Yves Bournazel, coprésident du groupe Indépendants et Progressistes, conseiller de Paris, secrétaire général délégué d'Horizon. Bonsoir.
Bonsoir Loïc Barrière.
Alors Pierre-Yves Bournazel, le gouvernement a accepté que l'Ocean Viking débarque au port militaire de Toulon avec 234 migrants, mais le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dénoncé le choix incompréhensible de l'Italie de ne pas les accueillir, contrairement à ses engagements européens. En rétorsion, la France a suspendu l'accueil de 3500 réfugiés actuellement sur le sol italien. Comment accueillez-vous la décision de la France de mettre fin au calvaire de ces migrants qui, pour certains, étaient à bord du navire depuis 3 semaines?
Je suis favorable à cette décision d'intérêt général du gouvernement de la République. D'abord parce qu'il y a un premier principe qui me semble essentiel, c'est le principe d'humanité. La position du gouvernement italien, de Mme Meloni, de M. Salvini, est incompréhensible. Il y a des enfants en bas âge. Sur ce bateau, il y a des hommes, des femmes qui sont en situation de difficulté depuis 20 jours en mer, avec le froid, avec l'humidité. Notre premier devoir, c'est le devoir d'humanité. Ça a été d'ailleurs ma position constante depuis des années. Et puis ensuite, la question du droit. Ces personnes, qu'elles aient vocation ou pas à rester sur le territoire, il faut d'abord les protéger dans leur dignité, bien les accueillir. Celles et ceux qui devront être intégrés devront passer par des processus dont on pourrait longuement débattre, de l'apprentissage de la langue, à la question de l'emploi, à la question du logement. Et puis à celles et ceux qui n'auront pas vocation à rester sur le territoire parce que le droit ne leur permettra pas, et ceux-là devront bien sûr quitter le territoire. Mais là, le devoir d'humanité s'impose d'abord. C'est un principe de réalité. Dans quel monde veut-on vivre? Dans quelle société veut-on vivre? La position du gouvernement Meloni-Salvini est une position égoïste, dangereuse pour les migrants qui sont sur un bateau au péril de leur vie, dans des conditions effroyables. Mais aussi, ce gouvernement Meloni-Salvini participe à l'affaiblissement de l'Union européenne. Si nous sommes ensemble, c'est pour construire des politiques publiques communes. C'est pas pour que chacun... Alors le nationalisme le plus étriqué soit le plus égoïste possible. Donc je soutiens la position du gouvernement, d'abord l'humanité face à cette situation et l'application ensuite du droit.
Justement, quand l'extrême droite arrive au pouvoir, comme c'est le cas en Italie, il y a un risque de voir la solidarité européenne voler en éclats sur de nombreux sujets. Là on pense à l'immigration, mais ça pourrait être le cas sur d'autres sujets.
Malheureusement oui, parce que je connais d'expérience... ces gouvernements de l'extrême droite. C'est la montée du nationalisme, et le nationalisme, c'est le conflit. C'est la recherche du bouc émissaire permanent à l'intérieur des frontières, en ciblant des catégories de population, souvent d'origine étrangère, et puis à l'extérieur, prenant d'autres nations comme ennemis ou adversaires. C'est la leçon de l'histoire. Et aujourd'hui, on voit bien que ce nationalisme est dangereux. On l'a vu avec M. Bolsonaro au Brésil, on l'a vu avec M. Trump aux États-Unis, on le voit à l'intérieur de l'Union européenne avec le gouvernement de Mme Meloni et de M. Salvini, on le voit malheureusement avec M. Orban en Hongrie. Si nous voulons, sur tous les sujets, la transformation écologique, la question de l'efficacité économique, la solidarité, la protection de nos peuples, la sécurité... Si nous voulons peser dans le monde aujourd'hui face à des puissances comme la Chine ou l'Inde demain, eh bien, il faut de la solidarité européenne, il faut des politiques partagées, il faut des discussions et des convergences. Ce n'est pas avec le repli sur soi qu'on y arrivera, on s'affaiblira et on va désorienter nos peuples.
Pierre-Yves Bournazel, ces derniers jours ont été marqués par la polémique autour d'un député du RN sanctionné pour une phrase considérée comme raciste lors d'une prise de parole d'un député LFI sur le thème des migrants. Il a d'ailleurs été sanctionné. Est-ce que le RN est devenu un parti comme les autres ou bien il est une menace pour le pacte républicain?
Le Rassemblement national est un parti politique qui qui véhicule le nationalisme que je viens de dénoncer. Le nationalisme, c'est le repli sur soi, c'est la recherche de boucs émissaires et d'adversaires à l'intérieur des frontières et à l'extérieur des frontières. Et c'est le contraire de ce que je crois bon pour une grande démocratie comme la France. Nous devons défendre nos fondamentaux républicains, nous défendre notre état de droit et combattre les idées de l'extrême droite. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale la semaine dernière est révélateur d'une philosophie politique qui est la haine de l'autre. La déclaration du député, d'abord, n'est pas à la hauteur d'un député. Quand on est représentant de la nation, lorsqu'on représente ses concitoyens dans l'hémicycle, on n'éructe pas en permanence. Et ensuite, on tient des propos corrects et on respecte ses collègues et on respecte les citoyens ou les personnes dont on parle en général. Le Rassemblement national peut être contre l'accueil des migrants et des réfugiés, mais on peut respecter les réfugiés et les migrants. Et la manière dont les choses ont été exprimées ont démontré à tous les moins une xénophobie, pire, peut-être du racisme. Et cela, il faut le combattre, parce que la haine de l'autre, c'est un poison. C'est un poison pour des sociétés démocratiques, parce que ça amène toujours, eh bien, des populations à se monter les unes contre les autres. Et ça, c'est pas le devoir du politique. Sa responsabilité, son devoir, c'est d'unir et de rassembler, de fixer un cap, de donner une vision et d'être en capacité de fédérer les énergies. On a le populisme, c'est exciter des populations les unes contre les autres. C'est le choix de la facilité, de la commodité. Le chemin que nous devons choisir, ça doit être le chemin du rassemblement. Et il est difficile, ce chemin. Il est exigeant. Mais je crois que c'est à cela qu'on reconnaît les hommes et les femmes d'État.
Le gouvernement prépare un projet de loi sur l'immigration qui devrait permettre d'accorder un nouveau titre de séjour métier en tension. Dans le même temps, la majorité sera plus ferme sur la question des reconduites à la frontière. Est-ce que l'immigration de travail peut contribuer à relancer l'économie française dans les secteurs où l'on n'arrive pas à recruter ?
Tout d'abord, moi je suis tout à fait favorable à ce qu'on puisse débattre sereinement, respectueusement, de tous les sujets, dont celui de l'immigration, en sortant des idéologies. La plus dangereuse, c'est celle dont on vient de parler, c'est l'idéologie nationaliste qui est exclusive et qui trie les citoyens en fonction de leurs origines, en fonction de ce qu'ils sont, de leur religion ou autre. Ça, il faut combattre. Et puis, il y a d'autres idéologies, je ne les mets pas sur le même plan, mais qui consistent à dire, finalement, c'est l'accueil systématique. Tout ça ne fait pas des politiques solides et crédibles. La France doit pouvoir accueillir une immigration. Elle l'a toujours fait, elle doit pouvoir la maîtriser, c'est ça une politique publique. Maîtriser, ce sont des choix qui doivent être faits. Alors il y a l'immigration du travail, dans de bonnes conditions, pour un certain nombre de métiers qui nécessitent des qualifications, mais qui nécessitent du coup d'assumer, de donner des droits à des hommes et des femmes qui viendront de l'extérieur pour travailler, mais qui devront pouvoir aussi vivre pleinement dans notre pays et devront être intégrés, ce qui initie des politiques publiques sur l'apprentissage de la langue, sur la transmission de nos principes républicains, sur l'accès au logement et aux droits. Ça, ça me paraît important. Pour ne pas être dans des sujets de conflit sur le sujet d'immigration, mais dans des sujets de construction de politiques publiques crédibles et réalistes, pour que la France puisse bien définir sa ligne et lorsqu'elle doit accueillir une immigration, qu'elle le fasse dans de très bonnes conditions pour l'intégration de ces personnes, pour qu'elles puissent participer à l'aventure collective, l'aventure de la nation française. Et donc, sur la question de l'immigration du travail, l'immigration, ce que d'autres appellent l'immigration économique, eh bien, il faut regarder, évidemment, ce que peut être construit, les besoins, avec les partenaires sociaux, les syndicats, le patronat, mais dans une logique d'intégration. Parce que moi, je serais toujours contre une logique qui dirait on a besoin d'immigration économique, donc on va accueillir tant de personnes, voilà, pendant 2-3 ans, mais on va pas se préoccuper de savoir s'ils apprennent la langue française, s'ils respectent nos principes, s'ils peuvent s'intégrer, parce que de toute façon, on verra après. Non, c'est maintenant, parce que s'ils ont vocation à rester durablement sur le territoire, c'est dès le début qu'on doit les accompagner, qu'on doit mettre en place des politiques publiques pour faire en sorte qu'ils puissent s'épanouir dans la société dans laquelle ils vont venir travailler. Et s'ils ont vocation à repartir, bien, parce qu'ils le souhaiteraient, par exemple, eh bien, ça sera pas mal qu'on ait pu bien les intégrer le temps de leur présence sur le territoire, parce que ça participe aussi du rayonnement de la France, de bien accueillir, même de manière temporaire, un certain nombre de citoyens du monde.
Alors, on va parler de l'actualité parisienne. Pierre-Yves Bournazel, Anne Hidalgo a annoncé lundi qu'elle allait proposer, lors du prochain Conseil de Paris qui se tiendra la semaine prochaine, d'augmenter considérablement le taux de la taxe foncière qui passera de 13,5% à 20,5%. Pourquoi estimez-vous que ce n'est pas une bonne décision?
Ce n'est pas une bonne décision parce que d'abord il y avait une alternative, celle que je propose depuis de nombreuses années, de manière réitérée à chaque budget, au moins depuis 2014, avec des propositions constructives. Paris s'endette, chaque année notre dette augmente à Paris, c'est-à-dire que nous reportons sur les générations futures les bonnes décisions, et nous augmentons toujours la dépense publique de fonctionnement. Et donc il y a une alternative, c'est les réformes structurelles à Paris et la baisse du train de vie de l'hôtel de ville. J'ai proposé depuis plusieurs années, par exemple, la fin de la flotte automobile de la ville de Paris, la fin des jetons de présence des élus dans les conseils d'administration, la fin des cabinets pléthoriques de la mairie de Paris pour ses adjoints, par exemple, ou des organismes associés. Eh bien, ça permettrait de réaliser un certain nombre d'économies, de baisse de la dépense publique de fonctionnement, qui pourrait participer à la baisse de l'endettement de Paris et qui éviterait d'augmenter les impôts. L'augmentation de la taxe foncière décidée par Madame Hidalgo, qui est contraire d'ailleurs aux engagements qu'elle avait pris devant les Parisiennes et les Parisiens, c'est le choix pour moi de la facilité. C'est de faire payer les contribuables sur une mauvaise gestion de la ville de Paris. Et ça, je le regrette profondément, et de manière constructive, de manière positive, je relancerai la semaine prochaine au Conseil de Paris les propositions que je portent depuis longtemps, qui sont des propositions sérieuses et financées pour que Paris puisse investir dans la transformation écologique, dans la solidarité, les politiques de logement, les politiques d'accompagnement, dans l'efficacité économique, sans s'endetter et sans augmenter les impôts des Parisiennes et Parisiens. Et pour ça, il y a une solution, une alternative, c'est la réforme, c'est la capacité à baisser le train de vie de l'hôtel de ville et de diminuer un certain nombre de dépenses de fonctionnement. C'est pour ça que je conteste le choix qui a été fait. Et ce choix, il est lourd, parce que vous allez me dire, ça touche les propriétaires. Mais les propriétaires à Paris, pour la plupart d'entre eux, sont des hommes, des femmes, des ménages, des personnes seules, qui ont emprunté, qui se sont endettés pour emprunter, pour 20 ans, pour 25 ans, dans une ville qui est chère, où l'appartement est cher, des gens qui ont des appartements de 50 mètres carrés, de 70 mètres carrés, qui font face aussi aux difficultés du pouvoir d'achat, vont être pénalisés encore, et verront leurs impôts augmenter, eh bien je trouve ça anormal, inacceptable. Je suis pour la maîtrise fiscale et je suis pour qu'il y ait des efforts qui soient concentrés sur la baisse du train de vie d'hôtel de ville et sur des réformes structurelles qui permettent de diminuer la dépense publique de fonctionnement.
Pierre-Yves Bournazel, vous êtes membre de la direction du parti Horizon. Édouard Philippe, dont vous êtes proche, se prépare visiblement pour la prochaine élection présidentielle, puisque Emmanuel Macron ne pourra pas être candidat à un troisième mandat. Horizon fait partie de la majorité présidentielle, mais c'est bien un parti autonome. Qu'est-ce qui fait l'ADN d'Horizon? Comment pourriez-vous définir le philippisme?
Ah, c'est une très bonne question. C'est pas une réponse très simple à construire. Je pense que, d'abord, Édouard Philippe, c'est un homme d'État, pour moi, qu'il côtoie depuis longtemps, et je le différencie de l'homme politique. L'homme d'État, c'est celui qui porte une vision. Il a une vision d'avenir du pays, de la France, dans l'Europe et dans le monde. Il a défini cela dans son discours du 9 octobre 2021 au Havre, et j'invite celles et ceux qui nous écoutent et qui s'y intéressent à revoir ce discours qui dessinait les vertiges du monde et qui essayait de construire une vision pour amener des solutions concrètes et opérationnelles pour l'avenir de notre pays et de nos concitoyens. C'est un homme d'État qui a une éthique de vérité. Il dit ce qu'il croit être juste pour les Français et pour l'avenir du pays, qui ne tombe jamais dans la facilité, justement, qui ne tombe jamais dans le populisme et qui ne dit pas forcément ce que les gens veulent entendre, mais ce qui paraît bon pour les rassembler, pour faire nation, pour faire société. Et au moment où il y a beaucoup de gens de la gauche dure à la droite dure, qui essaye de jouer sur les divisions de la société française, il cherche les voies du rassemblement et de l'apaisement de la société par des solutions énergiques, fortes, pour l'avenir du pays et l'avenir de nos concitoyens. Donc ça en fait un homme d'État qui a traversé les épreuves, qui a traversé des crises et qui a démontré dans des périodes extrêmement difficiles qu'il savait aussi décider, faire des choix qui n'étaient pas toujours faciles, les assumer, tout en disant parfois, on l'a vu dans la gestion de la crise du Covid, qu'il y avait des incertitudes, qu'il y avait des choix à faire et qu'ils étaient difficiles à faire parce qu'il y avait des inconnus et que parfois il ne savait pas lui-même parce qu'il n'avait pas les éléments scientifiques sur le moment qui lui était présenté. Ce qui montrait cette éthique aussi de vérité, je pense, qui en fait un homme d'État d'une grande dimension. Et puis alors, qu'est-ce que c'est que Horizon ? Horizon, d'abord, c'est un parti politique cultive une logique de rassemblement aussi, de dépassement d'hommes et des femmes qui se retrouvent, j'allais dire, dans une vision ouverte de la société, qui refuse la montée du nationalisme, de la haine de l'autre avec une droite dure et une extrême droite, et qui refuse de l'autre côté un peu la montée d'une gauche radicale qui contesterait aussi une forme de l'état de droit pour imposer ses points de vue. On l'a construit sur la base municipale, c'est-à-dire que c'est le premier parti politique qui structure son mouvement à partir des communes, des petits villages aux villes moyennes en passant par les grandes villes. Quand vous adhérez, vous pourrez adhérer à un comité municipal de votre ville ou de votre village au plus près du terrain. Et on s'appuie sur un tissu aussi d'élus locaux parce qu'on croit à la proximité, on croit justement à ce terrain pour faire remonter les bonnes idées. Notamment les maires sont en première ligne, ils ont le caractère opérationnel parce qu'il faut qu'ils fassent vivre leur commune, les écoles, les cantines, les routes, les transports en commun, l'isolation thermique, etc. Ils sont dans l'opérationnel, ils sont dans la proximité et ils sont dans la construction parce qu'il faut savoir travailler avec les autres. Ça fait partie de l'ADN d'Horizon d'avoir un maillage territorial, voilà, au plus près du terrain, au plus près de la proximité, au service d'une vision de l'avenir du pays et en cultivant une modération qui est facilement critiquée aujourd'hui. Mais la modération, c'est d'apprendre à comprendre les mécanismes et la complexité du monde dans lequel on vit pour éviter de gouverner à coups d'yaka et de faucon et d'éviter de tomber dans l'extrémisme, de tomber dans la facilité, de tomber dans des discours tout faits qui amèneront le pays au chaos. Et bien, pour éviter cela, nous avons décidé de prendre notre destin en main et autour d'Edouard Philippe de construire une vision de la société, des solutions opérationnelles, et c'est un mouvement qui travaille beaucoup avec des revues qui sont en train d'être construites avec des experts, avec des citoyens, avec des élus qui participent. On a fait une première revue ce printemps, une deuxième là qui vient de sortir sur la question de la transformation écologique, où on parle aussi bien des métiers verts de demain, des nouvelles formations professionnelles, de la filière nucléaire, des énergies renouvelables, de la question de la croissance qui peut être créée avec une stratégie notamment verte, sur la question de la fiscalité écologique, sur la question des transports en commun, sur la question des logements, bref, de la vision au caractère opérationnel de terrain. Et je trouve que ça montre un parti politique qui ouvre grand les portes et les fenêtres aux autres, aux citoyens, aux associations, à la société civile, aux partenaires, à toutes celles et tous ceux qui font la nation, pour pas être repliés sur nous-mêmes, mais au contraire en capacité de travailler avec les autres.
Merci Pierre-Yves Bournazel. Merci. Je rappelle que vous êtes co-président du groupe indépendant et progressiste, conseiller de Paris et secrétaire général délégué d'Horizon. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.